travailler sur la question de l'humilité face au prochain. Comme je vous l'ai dit ce matin, l'humilité face au prochain, c'est peut-être plus compliqué que l'humilité face à Dieu, même s'il y a un lien entre les deux. Parce qu'évidemment, qui dit l'humilité face à Dieu dit aussi l'humilité face au prochain. C'est un seul et même amour, nous dit le Seigneur. Et on voit bien que la place qu'on ne donne pas au Seigneur, eh bien, tôt ou tard, c'est la place qu'on ne donne pas au prochain. Et inversement. Vous voyez, donc c'est vraiment un seul et même amour, on le sait bien. Donc c'est vraiment ça, on distingue pour un peu mieux comprendre, mais c'est un seul et même amour, un seul et même amour et une seule et même humilité. L'humilité face au prochain, c'est en quoi ça peut consister? C'est saint Augustin qui nous dit qu'au fond, l'humilité consiste à dire que le péché commis par un autre, moi aussi, je peux le commettre en raison de ma fragilité, même si je ne l'ai pas commis parce que j'ai été d'une manière ou d'une autre protégé. Je crois que la première humilité face au prochain, c'est la miséricorde. C'est pas difficile de voir les défauts des autres. Et donc, la miséricorde va être l'expression de l'humilité face au prochain. Et quand saint Augustin dit justement, l'humilité consiste à dire que le péché commis par un autre, moi aussi j'aurais pu le commettre en raison de ma fragilité, mais si je ne l'ai pas commis, c'est que j'ai été d'une manière ou d'une autre protégé, ça nous incline à excuser plus qu'à accuser. À excuser le prochain plus à l'accuser. Je pense beaucoup pour des questions souvent épidermiques, vous voyez, des réactions épidermiques, chacun de nous, on a notre sensibilité, etc. Il y a des personnes, il suffit parfois qu'on les voit s'approcher, on les voit, tout de suite, on est énervé, même s'ils n'ont rien dit. Les pauvres, ça peut arriver. Je ne parle pas de personnes ici présentes, parce que vous êtes dans la charité parfaite. Donc, mais imaginons d'autres personnes extérieures à cette salle, je pense qu'on peut se mettre dans le lot tranquillement. On voit facilement les défauts les uns des autres. C'est pas compliqué. L'humilité consiste à excuser plus qu'à accuser. Pourquoi l'autre, au fond, agit comme ça? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est un besoin d'être assuré? Est-ce que c'est un besoin d'être dominé? Et dominé pourquoi? Parce que besoin d'être reconnu. Oui, il y a des tas d'explications à la manière d'agir. Et les motifs sont souvent multiples. Il n'y a pas qu'une seule explication. J'étais pendant des années aumônier de prison et ça m'a beaucoup aidé justement à là être en face de personnes qui avaient commis le mal de façon grave. C'est en Amérique latine. Donc, commis le mal, casser des vies, briser des familles. Vraiment de façon très grave. Donc là, c'est vraiment des personnes avec un passé lourd. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas m'empêcher, en côtoyant ces personnes au quotidien, de me dire, elles sont comme moi. Et moi, je suis comme elles. T'es poli, sympathique, pour certaines, proposant un café, proposant un siège quand je les visitais dans les cellules. Et ça m'a servi de leçon parce que au fond, les humanités que j'avais en face de moi étaient comme la mienne. Bon, mais quand on lisait ensuite tout le dossier juridique et ce qui faisait matière au procès, il y avait les poils qui se hérissaient de peur parce qu'on se disait, mais cette personne-là, elle a été capable de ça. Tout le casier judiciaire, des condamnations antérieures, donc... Je trouve ça, ça m'a beaucoup servi parce que, de certaine manière, dans la prison, on trouve en condensé ce qu'on trouve ailleurs. En condensé dans le sens où, bien sûr, c'est des réalités beaucoup plus dures, beaucoup plus graves, des faits beaucoup plus graves, mais on trouve ailleurs de façon diluée, avec des exaspérations épidermiques, avec des manques de patience, avec... Parce que tout simplement, on n'accepte pas l'autre hein, dans son caractère. Et le travail, on dit oui, mais l'autre n'a qu'à changer. D'accord. Mais tous les saints diront l'inverse. Vous n'avez qu'à changer. C'est d'abord soi-même qui avons à nous convertir. Alors peut-être que l'autre aussi, mais de se dire si je n'accueille pas telle personne, pourquoi je ne l'accueille pas? Pourquoi je suis dans une attitude de cette manière de rejet? Ou de manque d'accueil, de fermeture, parce qu'on est tous très bien élevés, donc voilà, on va mettre les formes pour pas trop que ça se voit. Mais au fond du cœur, je sais très bien que je l'accueille pas. Et puis l'autre le sait, souvent ça se sent. Qu'on veut accueillir quelqu'un qu'on veut pas l'accueillir, c'est très facile de montrer, hein, par mille manières. Donc on se dit, mais pourquoi est-ce que ça me provoque en moi cette réaction de rejet? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi comme incapacité d'aimer? J'aime bien cette phrase de cette méditation de Jean Vanier. Hein, vous connaissez Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, hein, auprès des personnes handicapées, qui dit au fond, qui est l'ennemi? Eh bien, l'ennemi, c'est pas tant l'ennemi mortel qui m'attend au coin du bois, qui veut ma peau, qui veut... Il y en a très peu, quelques personnes qui sont touchées par ça, mais... En général, l'ennemi, bon... En même temps, c'est important d'avoir des ennemis pour pratiquer l'Évangile. Sinon, on ne peut pas pratiquer l'Évangile. Mais vos ennemis, nous dit Jésus, si on n'a pas d'ennemis, ben on ne peut pas pratiquer l'Évangile. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est qui l'ennemi? C'est la question. Et lui dit, au fond, l'ennemi, c'est celui qui vient toucher mon incapacité d'aimer. Celui qui me fait grimper du rideau, qui me donne de l'urticaire. Alors là, tout de suite, il y a une liste formidable qui s'affiche devant nous, d'ennemis, parfois très très proches, dans la famille, et souvent dans la belle famille, c'était pour plaisanter, pour citer personne, donc dans la famille, etc., et dans le milieu professionnel, dans l'église, ah oui, les sensibilités sont heurtées. Voilà, ben, vous voyez, quand on est en face de ça, comment est-ce qu'on fait? Quand on est en face d'une personne, et soi-même, on peut l'être pour d'autres. Je veux dire, faut pas non plus penser qu'on est le carré des justes au milieu des pécheurs. Je veux dire, chacun, on peut l'être pour l'autre. Source d'exaspération, de monter au rideau, de d'urticaire et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, d'abord, on prend conscience de ça. Déjà, on met des mots. Pourquoi est-ce que cette personne-là m'agace? Pourquoi d'une certaine manière, je la rejette et je serais content de ne pas la voir, même. Alors, bien sûr, je ne lui veux pas du mal, enfin, ça ne va pas jusque-là, mais je serais au moins content de ne pas la voir. Pourquoi? Pourquoi ça se passe en moi? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que ça vient toucher... Est-ce que ça m'insécurise? Est-ce que cette personne-là vient réveiller en moi, au fond, toute une ténèbre? Me rappelle d'autres personnes. Est-ce que cette personne-là, au fond, elle est fragile et j'aime pas la fragilité? J'aime pas la fragilité, moi j'aime les gens forts. Est-ce que cette personne-là, au fond, je l'accueille pas parce qu'elle me dérange? Elle me demande quelque chose. Elle est insistante. Bon, et on peut continuer comme ça, toute une kyrielle de raisons. Justement, l'humilité, je veux dire, c'est d'abord l'accueil de l'autre. Si dans la règle de Saint-Benoît, et puis tous les ordres monastiques ont repris ça à sa suite, l'accueil, l'hospitalité, était une des conditions de la vie monastique, c'est que précisément c'est un lieu de combat spirituel, parce que la vie monastique, de par sa nature, est entrée dans le combat spirituel, le combat intérieur, mais c'est aussi un signe de l'Évangile, l'hospitalité. Alors, hospitalité de différentes manières. Alors, tout le monde ne peut pas accueillir dans sa maison, mais il y a plusieurs maisons. Il y a la maison intérieure. Est-ce que j'accueille au moins l'autre? Est-ce que je lui laisse un espace? Alors, vous voyez... L'humilité, c'est excuser. Et puis saint Paul, il ira encore plus loin. Reconnaissez que les autres sont supérieurs à vous-même. Ah, ça se complique. Reconnaissez que les autres sont supérieurs à vous-même. Alors, il disait, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres. C'est très fréquent dans les phrases de saint Paul, dans les épîtres. Ça veut dire quoi de considérer les autres supérieurs à soi-même? C'est-à-dire, au fond, de voir le positif dans l'autre, d'avoir une bienveillance. Hein, reconnaître les autres supérieurs à soi-même, c'est d'avoir une bienveillance. C'est aussi une forme d'hospitalité. La bienveillance. Vous voyez, le fait de vouloir le bien, bienveillance, c'est ces deux mots, vouloir le bien pour l'autre. Et se réjouir du bien qu'a l'autre, ou qu'est l'autre. Se réjouir du bien. Et s'attrister du mal. Ne pas dire, bah, c'est bien fait, tiens. Il a bien mérité, alors, s'il lui arrive ça, c'est lui pendé au nez. Parfois c'est vrai que ça lui pendait au nez, mais bon, s'attrister du mal qui arrive, parce que le mal reste toujours un mal. Alors vous voyez, l'humilité, ce sera vraiment cette attitude de vouloir le bien, de bienveillance, d'excuser, de dire, ben, elle a agi. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les choses. On voit les choses. Hein. Je me rappelle de cet évêque justement argentin qui me disait, c'est pas facile d'être bon et intelligent en même temps. La bonté, l'intelligence voit les choses, la bonté les excuse. Donc, c'est un peu compliqué. Quand on voit les choses, et en même temps qu'il faut excuser les choses qu'on voit, et en même temps, c'est l'attitude du Seigneur envers nous, hein, qui est à la fois évidemment bon et intelligent. Et que les difficultés relationnelles sont toujours des difficultés personnelles. Il faut vraiment s'enraciner. Peut-être l'autre a un problème, oui, mais moi, j'ai d'abord à me convertir. Vous connaissez cet épisode de la vie de Mère Teresa, qui est un journaliste, lui pose la question, mais Mère, quels sont, d'après vous, les grands problèmes de ce monde? Il y en a deux. Il y a vous et il y a moi. Quand on se sera converti, ça ira beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi il n'a plus posé de questions après. Hein. Il a regardé par terre, il a dit d'accord. Parce que c'est vrai. Parce que d'abord, commencer par soi-même. Donc l'humilité, c'est la miséricorde. La miséricorde, au fond, c'est avoir du cœur pour la misère. Et de se dire que le mal que l'autre, comme nous disait saint Augustin, le mal que l'autre a commis, j'aurais pu aussi le commettre. J'ai peut-être eu en pensée des actes, des pensées homicides. Ah ben tiens, si cette personne n'existait pas, ça serait peut-être mieux. J'ai peut-être eu des pensées impures, j'ai peut-être eu des pensées de désirer le bien du voisin, des pensées de mort. Et qu'est-ce que dit Jésus? Ben, celui qui a commis dans son cœur déjà le péché, bien, il devra en répondre. Alors, je suis jamais passé à l'acte parce que je suis bien élevé, parce que j'ai une éducation, parce que ceci, parce que cela. D'autres n'ont pas eu cette chance et peut-être passent à l'acte plus facilement. C'est là où je disais qu'il y a peu de différence au fond dans ces humanités qui étaient prisonnières et moi-même. Parce qu'on trouve là comme une similitude. Je vais dire, si ce n'est que moi je ne me suis pas encore fait prendre, je vais dire. Mais bon, mais c'est là où c'est très fort. C'est de se dire, ben, est-ce qu'on n'est pas au fond dans cette même humanité pétrie à la fois par la grâce et puis marquée par le péché? Ce qui n'empêche pas, vous voyez, de aussi quand on note la fragilité de l'autre, aussi de corriger. Hein, ce qu'on appelle dans la vie religieuse, hein, la correction fraternelle. Correction fraternelle, il faut qu'elle soit plus fraternelle que correction en général. Et donc c'est de dire aussi à l'autre, mais comment dire à l'autre? Parce qu'on doit aussi aider l'autre à sortir de... Bon, comment dire à l'autre? Et là, je crois qu'il y a une manière de dire particulière, c'est au lieu d'accuser, de dire voilà, telle chose, j'ai du mal avec telle chose. Par exemple, pas quoi, tu critiques toujours tout. Dès qu'on parle avec toi, on parle d'argent. Les gens qui ne parlent que d'argent. voilà, qui ne font que critiquer. Ou, je ne sais pas, non, qui, d'une manière ou d'une autre, ne nous tirent pas vers le haut. Alors, face à ces personnes-là, est-ce qu'on va les laisser? Bon, on accueille, on excuse, etc., mais il faut faire avancer le public aussi. Donc, est-ce qu'on va les laisser d'une certaine manière dans cet état, ou est-ce qu'on peut dire une parole? Alors, si on a une parole à dire dans le cadre de la correction fraternelle, c'est de dire, mais pourquoi tu fais, non pas d'accusateur, tu fais ça, tu fais ci, mais de dire, cet aspect-là de ta personnalité me coûte. Vous voyez combien il faut d'humilité pour dire ça? Et donc, il faut d'amour. Ça me coûte. J'y arrive pas. Pourtant, on est amis, on s'entend bien, mais si je te le dis, c'est pas parce que je suis mieux que toi, ou pas parce que je t'aime pas, etc., mais cet aspect-là me coûte. Qui a le courage, face au prochain, d'avoir une attitude de correction fraternelle? Et ce qu'on a dit ce matin, c'est que le courage, c'était l'autre mot pour dire humilité. Que ce soit envers Dieu, que ce soit envers le prochain. Hein, la magnanimité, la grandeur d'âme. Alors, il ne faut pas se faire le correcteur de tout le monde et le redresseur de tort. Là aussi, vous savez, une correction fraternelle, c'est toujours important de se faire valider, toujours pareil, de se faire accompagner, de demander conseil. Écoute, je pense dire telle chose à telle personne. Demandez conseil. Quand vous avez envoyé un mail, par exemple, un peu difficile, ben, demandez conseil. Il y a des mails parfois qu'on envoie ben, un peu pour dire ben non, il y a telle chose qui ne vont pas, telle chose. Et par mail, c'est beaucoup plus dur que par oral. C'est 2 ou 3 fois plus dur. Donc, du coup, il faut beaucoup plus mesurer ses paroles. Et ses mots, plutôt. Donc, vous voyez, le fait de demander conseil. Mais si on a demandé conseil et que l'autre, d'une certaine manière, dit oui, il y a quelque chose qui me paraît objectif, eh bien, on peut dire les choses. Et c'est mieux de les dire, pas par écrit, en oral, en direct. Mais ça se pratique très rarement. La critique se pratique souvent à l'absence de l'autre. Mais en face de l'autre, de dire, écoute, telle chose, ça me coûte, c'est très rare. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour, simplement. C'est un amour qui nous fait. Et au contraire, hein, je veux dire, la sainteté consiste à dire, dites-moi surtout si j'ai des choses à corriger, dites-le-moi. Dites-le-moi. Vous me rendrez service. C'est pour ça que d'une certaine manière, cette attitude de miséricorde, au fond, cette attitude d'humilité, eh bien, elle nous appelle chacun à une grande humilité face au prochain, à accueillir son rythme, on en a parlé ce matin, à accueillir son caractère, à accueillir son histoire, à accueillir ses dons aussi. Parfois, il y a des dons, on voit des dons chez d'autres, ben, qu'on a du mal à accueillir parce que, parfois, c'est... On a l'impression de ne pas exister, on a l'impression de ces dons-là, ben, nous, de cette manière, nous envahissent et nous étouffent. Accueillir le don de l'autre, et le don qu'est l'autre, c'est pas si simple non plus. Et on grandit dans cette humilité face au prochain en prenant conscience de combien le Seigneur a été miséricordieux envers nous. C'est toujours cette relation à Dieu. Quand Dieu est à sa place, il y a beaucoup de choses qui sont à leur place. Tout trouve sa place. Et c'est parce que j'ai conscience ben, que le Seigneur a été patient avec moi, qu'il a attendu que je revienne, qu'il a attendu que... C'est parce que j'étais conscient de ça, ben je serai aussi patient, je serai accueillant, je serai. Hein, vous connaissez la parabole hein, des 2 débiteurs avec celui qui devait 10 000 pièces d'argent, etc. Et le maître le pardonne, etc. Et l'autre qui devait 2 pièces et il l'attrape au collet, rends-moi tout, etc. Alors que l'autre demande au contraire un délai. Et cette parabole est intéressante parce qu'elle nous rappelle justement face au Seigneur combien on lui doit tout et combien parfois on est trop exigeant face aux autres. Donc l'humilité, c'est la miséricorde. L'humilité aussi, je trouve, c'est se laisser aider. Se laisser aimer, c'est se laisser aider. Vous voyez, c'est voire demander de l'aide. Voire demander de l'aide, parce que je crois que là aussi, on n'a pas forcément spontanément, j'allais dire, l'attitude de demander, l'attitude de tendre la main, l'attitude de solliciter le soutien des uns et des autres. Et au contraire, quand il y a un soutien qui se propose, non, je me débrouille tout seul, ça va, c'est très bien. Alors qu'on aurait, ce serait peut-être utile. Oui, au fond, dans cette humilité, c'est ne pas avoir peur de montrer ses propres fragilités à l'autre. Et vous le savez mieux que moi que la vie matrimoniale, c'est d'abord l'union de deux pauvres. On met en commun aussi nos fragilités, nos incapacités, nos impuissances, nos dons aussi, nos talents. Se laisser aider. Et derrière ça, c'est, au fond, l'humilité, c'est ne pas se penser seul, mais se penser comme un corps. Et on voit bien que nos sociétés qui ont occidentales, hein, qui ont évacué Dieu et qui ont laissé, remis ça là, strictement à la phase, disons, voilà, au domaine privé de chacun, eh bien, on voit des grandes solitudes derrière ça. Il n'y a plus l'idée de corps, il n'y a plus l'idée de famille, il n'y a plus l'idée d'appartenance. Et c'est vrai que l'Église, au fond, est ce lieu encore où on fait partie d'un corps. Et on insiste sur le fait qu'on fait partie d'un corps. Ce n'est pas une juxtaposition d'individus. Et l'apôtre Saint Paul dira, on est membres les uns des autres. On est membres les uns des autres. Je ne peux pas dire je sans dire tu et sans dire nous. C'est ça l'Église, des membres des uns des autres. Et c'est là où il nous faut convertir notre regard intérieur pour ne pas penser simplement de façon individuelle et portative. C'est se penser comme corps. Et on voit bien combien il y a beaucoup de travail dans la famille, justement, dans l'éducation. Je dis, mais non, il y a beaucoup d'égo. Non, mais tu existes avec les enfants. Il y a d'autres aussi qui existent. Il y a les parents qui ont le droit à leur intimité. Il y a les... Chacun... C'est dans la famille qu'on apprend à se vivre, à se penser comme corps. Et bien, chacun a le droit d'exister. Et ce que tu fais a des conséquences aussi sur les autres. Donc, prends conscience de ça. Alors, je crois que c'est assez beau de cette découverte, justement, de l'humilité comme qui nous rend capable d'appartenir, de communion, au fond. L'humilité nous rend capable de communion. C'est l'autre manière pour dire la charité. Et on voit bien que tous les manques d'humilité sont des manques de charité, les manques de charité, des manques d'humilité. Je veux dire, c'est pratiquement synonyme. Alors, c'est important de voir dans la communion, par exemple, est-ce qu'on en fait une priorité dans notre vie, la communion ? Est-ce qu'on en fait un critère d'éducation ? Par exemple. Est-ce que pour nous, c'est un critère important dans l'éducation, hein, pour celles d'entre vous qui ont encore des jeunes enfants, etc., ou qui sont grand-mères. Voilà. Faire prendre conscience de l'importance de la relation les uns avec les autres. On n'est pas sur une île déserte. On n'est pas tout puissant. Je ne suis pas tout puissant. Que ma volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Et c'est en nous, je veux dire, ne nous voilons pas la face, c'est en nous, cette toute puissance. Et donc du coup, d'avoir ce sentiment, je veux dire, ce critère d'éducation qui tient en compte la communion dans la famille, l'accueil des uns des autres, le pardon, mais aussi de façon plus large avec ceux qui peuvent entourer la famille, les grands-parents, oncles et tantes, cousins, cousines, voire les amis de l'école et compagnie. Donc, d'avoir souci de la communion. Et on voit bien que, au fond, cette communion, ça consistera justement à souligner ce qui est positif dans l'autre. Non seulement excuser plutôt qu'accuser, mais souligner le positif. Et ça, c'est aussi une manière d'être humble. Encourager. Il y a des formes d'éducation qui, au contraire, attaquent les gens intelligents, par ailleurs. Ah, dès qu'ils voient un truc, ils ont la capacité de voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire le point noir dans la page blanche. Il y a 10 millions de points blancs, mais il y a un point noir. Tac ! Tout de suite. Oui, ça décourage. Ça décourage un enfant, par exemple. Dans l'éducation, c'est au contraire, l'éducation, c'est un rôle, c'est d'encourager. Hein, en particulier, le père de famille a ce rôle-là d'encourager dans l'éducation. Mais donc, c'est important, justement, être humble dans la relation fraternelle, dans les relations, c'est souligner le positif. C'est savoir, on a dit rendre grâce à Dieu dans la relation avec Dieu, mais rendre grâce à Dieu pour ce que le prochain porte. Je remercie le Seigneur parce que tu as cette capacité d'accueil, tu as cette patience, tu as cette disponibilité, tu as un don artistique, tu as un don dans la prière, tu as un don de joie, tu as un don de service. C'est important de souligner les dons les uns des autres. On le fait que trop peu. Et de remercier le Seigneur, ce n'est pas pour s'enorgueillir, c'est à la plus grande gloire de Dieu. C'est-à-dire que ces dons-là, que n'as-tu que tu n'aies reçu. Justement, je trouve ça assez beau de souligner le positif, justement, on va dire d'excuser, mais d'encourager. Hein, comme un signe d'humilité. Un signe d'humilité aussi face au prochain, c'est d'accueillir les fragilités les uns des autres. C'est l'apôtre Saint Paul aux Galates, Galates 6:2, qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. » D'accueillir les fragilités les uns des autres. Les défaillances. Les actes manqués. Vous voyez, c'est cette attitude qui va accueillir la limite de l'autre. Nous rappelons à nous-mêmes nos propres limites. Nos propres incapacités. Et on voit bien que c'est tout un chemin intérieur pour faire ça. C'est pas spontané. C'est pas du tout spontané. Il y a un chemin intérieur. Parce qu'on voit bien que c'est l'inverse qui est spontané. C'est l'accusation qui est spontanée. C'est souligner les défauts qui est spontané. C'est accuser qui est spontané. Ça, c'est très spontané chez nous. C'est de ne pas accueillir la fragilité de l'autre. Et c'est vrai qu'on peut, de certaine manière, juger notre vie spirituelle à la capacité qu'on a d'accueillir la fragilité de l'autre. De même une société, d'accueillir des personnes fragiles, personnes handicapées, personnes vieillissantes, malades, etc. C'est les critères évangéliques à partir desquels on peut, de certaine manière, évaluer une société. Donc, ça veut dire que dans l'humilité, il y aura quelque chose à porter, vous voyez. C'est pas du spontané. Il y a quelque chose à porter, il y a quelque chose à travailler. Si c'était si spontané, ça se saurait. Quelque chose à porter, il y a quelque chose à supporter. Et c'est là où il faut du courage pour avoir de l'humilité face au prochain. Un courage mu par l'amour, l'amour de Dieu. Et que sans ce chemin spirituel, on ne se fait pas illusion. Hein. Tout ce qu'on peut entreprendre, ce sera que des masques, des façades. S'il n'y a pas ce chemin vraiment qui est très profond, vous voyez, c'est ça touche à des choses très profondes en nous, par exemple la question de la limite, la question de la fragilité. Ça réveille beaucoup de choses en nous. Et de même, l'humilité face au prochain, c'est d'accueillir parfois les reproches qu'on nous fait, que le prochain nous fait, nous souligne, bah écoute, il me semble que telle chose, ben voilà. Même s'il n'y a pas forcément toutes les formes possibles de délicatesse, ben les accueillir. La petite Thérèse qui disait, il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité, comme il faut beaucoup de lait pour faire un peu de beurre. Hein? Parce que c'est vrai d'accueillir les humiliations, des trucs qu'on n'a pas réussi, on est passé à côté, on aurait dû faire autrement, ça n'a pas marché. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Est-ce que je m'en veux? Est-ce que j'accuse? Est-ce que je me décourage? Ou est-ce qu'au contraire, ben voilà, j'ai une limite et je n'ai pas peur de la montrer. Et puis je le dis simplement, hein, devant le Seigneur d'abord, et puis mû par l'espérance. Ça, l'espérance qui fera que ben, je ne suis pas limité à mes propres incapacités, je peux aller plus loin. Alors pour terminer, j'aimerais bien vous citer des petites citations comme ça, de, par exemple Saint François de Sales, c'est intéressant, Saint François de Sales, c'est vraiment un très grand saint, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le fréquenter habituellement, hein, Saint François de Sales qui nous dit, eh bien, humilité à l'intérieur, simplicité à l'extérieur. Être simple. Humilité à l'intérieur, simplicité à l'extérieur. Il faut être simple. C'est trop compliqué, on sent qu'il faut prendre des gants, on sent qu'on ne sait pas où on navigue, vous voyez, on marche sur des œufs. On se dit, oula, il y a quelque chose qui n'a pas à voir avec l'humilité. C'est pas clair. Quelques autres citations. Hein. Saint Jean Chrysostome qui nous dit, la connaissance de soi est l'effet de l'humilité, elle en est aussi la cause. C'est intéressant, c'est. Faut plus on se connaît, plus on rentre dans une certaine, bah oui, humilité. Et en même temps, l'humilité nous permet de nous connaître. Il y a des aveuglements, il y a beaucoup d'aveuglements dus à l'ego, aux égos surdimensionnés. Les gens sont complètement aveuglés sur eux-mêmes, complètement. Oui, l'humilité donne une intelligence supérieure. Vous voyez, ça c'est. Ça permet, intelligence, c'est intus legere, c'est-à-dire lire à l'intérieur d'eux. L'humilité, ça permet de lire à l'intérieur des événements, à l'intérieur des personnes, des circonstances. Toutes personnes sont complètement aveuglées par leur. Obsédées par leur ego, en adoration devant elles. Des personnes comme ça, on voit. Certaines personnes publiques, par exemple, certaines personnes, on voit bien, très incapables de se remettre en cause. Bon. La citation la connaissance de soi est l'effet de l'humilité. Elle en est aussi la cause. Saint Jean Chrysostome, la connaissance de soi est l'effet de l'humilité. Elle en est aussi la cause. Et ce même saint Jean Chrysostome disait, l'humilité, c'est se prendre pour ce que l'on est, rien de plus. J'ajouterai rien de moins. Vous voyez ? On pense qu'on... C'est pas de dire ben, je suis nul, c'est pas de dire de se rabaisser. Voilà. Alors, la susceptibilité est le pire ennemi de la charité, l'humilité son meilleur allié. C'est pas mal ça. Hein, la susceptibilité, le pire ennemi, la susceptibilité, voilà. N'appelons pas susceptibilité chez les autres ce qu'on appelle sensibilité chez nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, n'appelons pas susceptibilité chez les autres ce qu'on appelle sensibilité. Ah, moi je suis sûr. Elle, qu'est-ce qu'elle appelle susceptible alors, Et moi je suis sensible, comprenez. Ça c'est de moi. Voilà. Vous voyez, donc. Il y a d'autres choses à dire. Mais peut-être, on va arrêter là. Est-ce que vous avez des quelques petites questions là-dessus pour terminer notre rencontre? Vous pouvez regarder, il y a les degrés de l'humilité, comme il y a les degrés de l'orgueil chez Saint Bernard, par exemple. Beaucoup de saints, on parlait de ça, c'est le cœur de la vie spirituelle. Donc. Alors, on raconte par exemple un apophtègme des Pères du Désert. Apophtègme, c'était des histoires, des morales qui étaient des pères du désert, les premiers pères à être partis au désert, hein, et vivaient comme ça en petite communauté d'ermites. Et il y en a un qui dit, mais qu'est-ce que c'est que l'humilité? Et le père, Abba, il disait comme ça, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Il dit, va voir les morts, et puis tu les encenses, tu les loues, tu les remercies, tu les traites de façon la plus sublime. Ok? Reviens, mon père, je l'ai fait, va voir les morts et insulte-les, traite-les de tous les noms. Surprise, bon, il revient, je l'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ben rien, toi, va et fais de même. Le type après, il avait qu'à se tenir tranquille. L'humilité, bon, bah, c'est les apophtèmes, c'est-à-dire, bon, c'est pour dire, au fond, ni être sensible à la louange, ni être sensible aux critiques, je veux dire, c'est...
Rester simple.
Simple. Ah, est-ce que vous avez des questions, mesdames?
Naturellement, un enfant a plutôt tendance à vouloir...
Oui, naturellement, l'orgueil prime, ça c'est clair. Maintenant, je pense limiter, par exemple, dans la question du pardon, dans la question du partage. C'est des choses concrètes, vous voyez, c'est de dire, ben, un enfant, on peut l'enseigner, l'humilité, par le pardon, par le partage, par la miséricorde, le fait d'excuser. Ben, tu vois, il y a tel camarade qui t'a fait ça, etc. Pourquoi? Ben, ça veut dire prendre du temps un peu... décortiquer les affaires avec lui. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça d'après toi? C'est quoi sa famille? Est-ce que tu connais sa famille? Est-ce que tu les connais les circonstances de sa vie? Est-ce que tu connais ceci? Est-ce que tu connais cela? Bon, aider un petit peu l'enfant à prendre, et, ou même dans la famille, au sein même de la famille. Hein, le fait de partager, de pardonner, le fait d'aider, le fait de demander de l'aide, le fait de prier, tout ça c'est l'humilité. Et d'autres questions ? C'est vrai que ça calme. Après ça. Non, pas de questions, ça tout est clair, net et précis.
Je repars juste avec cette idée que l'humilité passe par l'acceptation des contretemps. Là, ça m'a, c'est une phrase qui m'a un peu fait.
Oui, ça, oui, c'est sûr, oui, c'est l'accueil des contretemps. Le lien au temps, par exemple, c'est vrai que c'est.
J'avais jamais assimilé, enfin mis.
Bah oui, voilà, parce que c'est. Utilisé. Les choses ne vont pas au rythme que moi je veux. Et on aime bien que les rythmes, les choses aillent au rythme que moi je veux. On est tous pareils. Voilà, tac, il y a un bâton dans les roues, il y a ceci, il y a cela qui se mêle en travers. Voilà.
Moi, ce que j'ai du mal, c'est quand vous me dites, je ne suis pas contre, mais j'ai du mal, je crois que Dieu, c'est Dieu qui me maintient. Comment vous dites ?
Dans l'existence.
Voilà.
Ah oui, ça c'est capital. C'est Dieu qui me maintient dans l'existence, ah, oui. Vous avez du mal, pourquoi ? Parce que vous pensez que...
Vous disiez aussi les Lumières, non ? L'époque des Lumières.
À l'époque des Lumières, l'époque des Lumières disait au fond qu'au fond, il y a cette pichenette originelle. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu avait créé le monde, mais maintenant, bon, en ce modo, il s'en désintéresse.
C'est quoi ça ? C'est la philosophie ?
Ça, c'est la philosophie. C'est la philosophie des Lumières, vous voyez. Entre autres, Voltaire, hein, c'était le génial horloger, il appelait Dieu le génial horloger, donc toute la nature est comme une horloge, etc. C'est lui. Mais une fois qu'il a lancé le mécanisme, c'est fini. Il s'en occupe plus. Et nous disons non. Non seulement Dieu a initié la création, c'est donc en permanence nous sommes dans son amour. C'est-à-dire nous sommes maintenus en vie dans son amour. Alors c'est vrai que c'est une réalité qui n'est pas si évidente. En même temps, je comprends la question. Hein. C'est pas si évident à... Parce qu'on ne le perçoit pas, moi non plus. Hein. Je ne le perçois pas. Je veux dire, c'est pas habituel de percevoir... Ça, mais en même temps, parce que si Dieu, c'était simplement la pichenette, c'est-à-dire le coup d'envoi, clac, hein, comme au bille, tac, on donne un coup sur la bille, puis elle roule, puis jusqu'à... Voilà. De certaine manière, Dieu n'a plus rien à voir dans ma vie, quoi. Je veux dire, il est de son côté, moi du mien. Ça, la difficulté, c'est que si c'est un Dieu horloger, hein, comme le présentait Voltaire, en tout cas, hein, le grand horloger... Mais il n'y a pas vraiment... Bon, il a mis en route, mais ensuite, ben, c'est bon, voilà. Je me dis, ben, on est soutenu dans l'existence. Alors, c'est un petit peu abstrait, parce que c'est vrai que ça renvoie pas à beaucoup de choses. C'est plutôt, bon, des mystiques qui nous ont un peu appris ça, de gens qui ont perçu à quel point l'amour de Dieu avait à voir avec notre vie. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a quand même la parole de Dieu qui est très claire. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous soutiens.
L'histoire du soutien, ça peut être aussi un peu l'histoire de Noé.
Oui.
Si on se rappelle l'histoire de Noé, il lui a pas forcé la main.
Oui.
Mais il l'a encouragé. Il lui a dit de bien faire attention à son embarquement. Oui. De bien manger.
Oui.
D'apporter assez à manger. En fait... Et lui qui ferme la porte, c'est lui qui ferme la porte.
Oui, oui, tout à fait, l'arche, oui, c'est intéressant, ça.
Ok, il envoie le déluge, il envoie...
Oui.
Mais il prend soin.
Il prend soin, oui, il accompagne.
De ses quelques-uns.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et il les accompagne pour que la traversée se passe
oui,
bien.
Oui, se passe bien, oui, 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 tout à fait. Bah oui, c'est... Mais là, c'est non seulement prendre soin, c'est encore plus fondamental, c'est de dire on est maintenu dans l'existence, c'est-à-dire on est... Oui, bah, oui, on est soutenu par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, non seulement Dieu est prévenant avec nous, mais d'une certaine manière, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, c'est la communion. C'est ça, c'est la communion. C'est la... Et que hors de la communion, ben, avec Dieu, ben, le Seigneur ne nous laisse pas tomber, mais en tout cas, si intellectuellement on imaginait que Dieu cessait de penser à nous, de nous aimer, mais on tombe dans le néant. Et le néant, c'est vrai que c'est un peu abstrait à comprendre des choses. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça nous fait aussi relativiser notre propre existence. Vous voyez, ça nous met à notre juste place. Et nous met dans.
Même les contretemps, je veux dire, c'est pas
ouais.
grave.
Ben voilà. Voilà. C'est, ça vient de ça, entre autres.
Parfois, enfin, moi, je me disais que si ma vie n'était pas idéale comme ça.
Oui.
Un contretemps, c'est une catastrophe.
Oui.
Alors que maintenant, le contretemps, voilà.
Voilà.
C'est une bifurcation.
Ah, c'est une bifurcation, des contretemps. Puis il y a des contretemps, puis il y a des grands bouleversements dans des vies. Il y a des tempêtes, il y a des grands changements. Il y a des pourquoi une maladie qui se déclenche, etc. Bon, là, je connais un jeune couple, vous attendez les résultats, peut-être d'un cancer, etc. Chez le papa, bon. Il a 30, trentaine d'années. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Bon, imaginons que ce soit pas positif, tant mieux. Mais imaginons que ce soit positif, c'est-à-dire que le résultat dise qu'il est vraiment maladie. Comment ils vivent ça? Du coup, bon, par grâce de Dieu, c'est un couple très, très croyant, très enraciné en Dieu. Mais bon, c'est pas pour ça, c'est facile non plus. Mais vous voyez, c'est là où on se dit, d'une certaine manière, et c'est là aussi la Pâque du Seigneur, c'est quelles que soient les circonstances, il y a aussi un chemin. C'est ça que ça veut dire, d'une certaine manière. C'est Dieu nous maintient dans l'existence. En façon plus concrète, on peut dire, quelles que soient les circonstances, il y a un chemin. On n'est jamais seul.
Et la maladie, c'est vraiment un grand chemin d'humilité.
La maladie, oui, tout ce qui a rapport au corps, c'est un grand chemin d'humilité. Que ce soit la maladie, le handicap, la vieillesse, ou le corps de l'autre, les nourrissons, par exemple, les nourrissons, etc. Les nourrissons, on n'a pas le droit beaucoup à l'erreur. Je veux dire. Le corps renvoie à une grande humilité. C'est pour ça que quand nous croyons que Jésus lui-même a pris notre nature humaine, notre corps.
Mais même en étant croyant, c'est parfois difficile d'accueillir la nouvelle d'une maladie.
C'est toujours difficile.
À un moment, on se révolte aussi.
Ah, bien sûr. C'est normal. Ensuite, c'est un chemin. C'est un chemin. L'accueillir la maladie, on ne fait pas youpi, etc. Bon, non. Pour tous, voilà. Est-ce qu'il y a un diagnostic vital engagé? Est-ce que pas? Est-ce que ça veut dire arrêter une profession? Est-ce que ça veut dire des traitements à vie? Est-ce que ça veut dire. Bon. On est tout petit, face au corps. Justement, c'est important, face au corps humain. J'aime bien que vous parliez du corps, parce que justement, c'est le corps nous renvoie justement au temps. Notre corps, il est inscrit dans un temps. Il vieillit, entre autres. On a nos anniversaires chaque année, si tout se passe bien. Donc, et puis, il nous renvoie aussi à la matière, à la. Renvoie beaucoup d'humilité, le corps. Son propre corps, le corps de l'autre. Le corps de la personne âgée, par exemple. Le corps, c'est important de. Pour ceux qui ont encore leurs parents, de prendre soin de leurs parents. Ce sera une vraie question dans beaucoup de familles, la question des parents dépendants, la question de. Mais justement, nous voyons cette réalité-là, par exemple de la dépendance, mais à la lumière de l'Évangile, Jésus a pris notre propre corps. Du coup, évidemment, le corps humain prend une dimension, mais absolument abysmale. C'est-à-dire, c'est vertigineux. Qu'on pense que Dieu lui-même a pris notre propre corps. C'est-à-dire, c'est incarné. C'est ce en quoi nous croyons. Vrai Dieu, vrai homme. Toute personne humaine a à voir quelque part avec Dieu. Je veux dire, d'une certaine manière, à cette dignité. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est Tertullien qui disait ça. Il y a une grandeur de la personne humaine par l'incarnation. Les droits de l'homme, etc. Très bien. Mais le fondement, il est évangélique. Le fondement, ce qui fait que certains États qui ne sont pas mus par l'Évangile, disent, ce n'est pas leur tradition, ça c'est un truc judéo-chrétien. Mais nous, c'est pas notre culture. Notre culture asiatique, notre culture musulmane, notre culture je sais pas quoi. C'est pas notre culture. Parce que précisément, dans la réalité judéo-chrétienne, évidemment, la personne humaine, particulièrement sur le christianisme, et la fragilité humaine, non seulement que la personne humaine, mais la fragilité humaine, a pris une dimension énorme. Elle a été valorisée d'une certaine manière.